Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du New New Age où je pose toutes mes questions existentielles à une communauté de gens inspirants que j'ai baptisé les nouveaux hippies. Ils nous parlent de spiritualité, d'art de vivre intuitif et de thérapie naturelle et holistique. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de sorcellerie et de magie des saisons à l'occasion de l'équinoxe de printemps qui a lieu ce week-end. Et pour ça je suis avec Marie qui a créé Mystic Moons, qui est une plateforme de partage de magie, de spiritualité et de paganisme autour des cycles de la lune, des saisons et de la nature. Et j'avais découvert son univers au moment du dernier équinoxe d'automne, pour lequel j'étais partie en retraite un peu solitaire dans la forêt de Brocéliande. Et j'avais pratiqué le rituel que Marie propose sur sa chaîne YouTube, rituel de Samhain, donc de reconnexion à ce moment de transition qui est l'équinoxe d'automne, et de reconnexion aussi à ses ancêtres, à sa lignée. Et je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir discuter avec elle de sorcellerie.
Et c'est génial qu'on puisse se parler aujourd'hui pour parler de sorcellerie. Si tu veux te présenter et un peu ton parcours et qui tu es, ce serait super.
Je m'appelle Marie, je suis française, mais en effet, je vis au nord de la Suède. Donc, je vis en Suède depuis 4 ans et demi et en Laponie depuis 3 ans et demi.
Ouais.
Du coup, je vis vraiment au cœur de la nature parce qu'ici, il n'y a pas grand-chose à part des forêts et des lacs. Donc, du coup, c'est une expérience déjà en elle-même, quoi. Mm. Et en effet, j'ai des croyances et des pratiques autour de la spiritualité, plus particulièrement des croyances païennes, donc animistes aussi.
Ouais.
Donc, dans l'idée plutôt d'un culte de la nature, des puissances de la nature, des esprits de la nature, croyances aussi dans l'invisible, le subtil, dans un espace-temps un peu plus complexe qu'on le perçoit et le comprend aujourd'hui.
Ouais.
Et puis avec, en effet, comme tu disais, un point central qui est une connexion au cycle des saisons, de la lune, pour tenter de trouver de l'harmonie, de l'équilibre et reprendre conscience, en fait, de ce lien à la nature, quoi.
Alors, je crois que le terme de sorcière, hein, c'est un terme qui a été très utilisé dans toutes les traditions, dans toutes les cultures, depuis la nuit des temps. On lui associe les termes aussi de guérisseuse ou d'accoucheuse, et même de mégère, puisque la sorcière dans l'imaginaire commun, c'est quand même très associé à quelque chose de très négatif. Moi, je le vois comme une sorte de fonction, en fait, de lien entre le monde matériel et les mondes invisibles. Cette posture de faire le lien entre les humains et finalement un peu l'au-delà. Et toi, comment tu définirais la sorcière et comment tu l'incarnes ? Enfin, quelle sorcière tu t'as choisi d'incarner, en fait ?
Je trouve hyper intéressant parce que c'est rare d'avoir cette approche aussi juste de la posture de la sorcière.
Merci.
En effet, parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que juste avant de te répondre, une mini précision, c'est ouais. qu'on confond un petit peu toutes les pratiques, pratiques païennes, pratiques sorcières, pratiques magiques. C'est pas évident parce que c'est plein de vocabulaire et plein de mots qui sont pas forcément toujours très clairement expliqués.
Mm.
Et en effet, la sorcière, c'est avant tout ce rôle de lien entre le subtil et le tangible, et que qu'il n'y a pas forcément une pratique magique comme on l'entend de rituel pour refaire venir son ex ou pour attirer de l'argent, et que en effet, il y a vraiment une fonction de compréhension de ces mondes-là et un vrai rôle dans la communauté, du coup.
Ouais.
Moi, du coup, je sais pas si je suis c'est difficile, du coup, de s'attribuer, je trouve, le terme sorcière. Enfin, c'est plutôt
ouais.
qu'on nous attribue, en fait.
Oui.
C'est rare qu'on se l'auto-attribue. C'est vrai que je me dénomine comme ça sur les réseaux pour que ce soit un peu plus clair de savoir ce que je fais. En tout cas, oui, moi, j'ai cette notion, comme je disais au début, hein, de subtil, d'invisible. Et pour moi, ce qui est important de ce que je transmets, c'est d'incarner notre spiritualité dans la matière. Et c'est ce que je cherche vraiment à faire, justement, de ne pas être que connecté à ce subtil, cet invisible, mais de le ramener dans notre matérialité. Parce que pour moi, la spiritualité, elle est là pour qu'on puisse s'épanouir dans notre vie matérielle,
ouais.
et pas pour la fuir, en fait.
Ouais, pour trouver sa place.
Tout à fait.
Ouais. Comment concrètement tu ramènes ce subtil dans la matière et comment tu t'en sers pour mieux vivre au quotidien finalement?
Oui. Alors, ça va vraiment passer par le fait de ritualiser. C'est là où le rituel va commencer à prendre sa place. C'est-à-dire que pour moi, le but n'est pas de faire un rituel, mais c'est que le rituel va venir permettre de mettre en place un protocole et très souvent de matérialiser, puisqu'on va aller matérialiser les énergies avec lesquelles on travaille, avec ce que l'on explore dans l'invisible. Par exemple, si on a à peu près tous, on le fait tous, hein, sans s'en rendre forcément compte. Par exemple, si les personnes qui nous écoutent mettent des photos de leurs proches sur le buffet, dans la salle à manger ou sur la cheminée, il y a déjà cette idée de matérialiser l'invisible, en créant un hôtel pour ses ancêtres, par exemple, en mettant ces photos-là. Donc, comme nous, on est de la matière et qu'on est incarné dans un corps. Pour pouvoir interagir avec ce subtil, cet invisible, ces énergies, ça va être plus facile pour nous de les matérialiser en les symbolisant, en les représentant et peut-être en interagissant avec. Et là, voilà, il y a plein de protocoles et de rites qui vont se mettre en place pour pouvoir interagir avec ça. Et pour finir, je dirais que c'est au-delà de matérialiser les choses en les représentant, c'est aussi de les vivre dans sa vie en remettant le rituel au cœur. Et dans nos vies modernes, c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu. Alors qu'on l'avait beaucoup avant, hein, on ritualisait beaucoup chaque étape de la vie, chaque moment important, chaque moment difficile était ritualisé. Aujourd'hui, on traverse ça avec beaucoup de résilience et beaucoup de courage. Donc on est très fort pour ça. Mais du coup, on s'y perd un petit peu dans ces étapes-là, on les vit pas pleinement. Donc, c'est matérialiser. Pour moi, c'est aussi reprendre le temps de vivre pleinement les choses dans l'instant, quoi.
Ouais, de prendre le temps d'accueillir aussi peut-être les épreuves. C'est vrai qu'il n'y a plus de rite de passage aujourd'hui. Et au final, ça peut-être que ça minimise aussi ce qu'on est en train de vivre. Ça ne nous permet pas de pleinement l'accueillir, de pleinement l'intégrer et de finalement le laisser passer. Parce que bon, bah, les émotions, les événements, ils passent. Hein, mais quand on oublie, quand on évite de les regarder en face et de les accueillir, bah, peut-être que ça se cristallise et ça reste. Et c'est peut-être moins sain, ouais.
C'est très mentalisé du coup
Ouais.
aujourd'hui, c'est très intellectualisé, très mentalisé, et sûrement que c'est une bonne chose en partie. Mais ce qui est intéressant dans le rite, c'est qu'on va justement refaire des choses dans la matière et pas que dans l'intellect. Par
Ouais.
exemple, le repas de famille où on mange ensemble à la table, avec la vaisselle, avec la nourriture, avec voilà, il y a quelque chose qui va se passer dans la matière que va permettre le rituel. Et le fait de ne pas ritualiser nous empêche aussi de l'incarner
Ouais.
vraiment.
Mais d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai noté dans ta présentation sur ton site. Tu parles de magie du foyer. Je trouve ça très beau. Enfin, ça m'attire et ça m'intéresse beaucoup. Comment tu ritualises toi justement ces moments en famille autour de la table?
Ouais. Alors, c'est marrant ce que tu dis parce que moi, du coup, je vis très isolée, donc j'ai pas tant que ça ces moments-là. Mais j'en ai, je vis avec quelqu'un, hein, on est
Ouais.
deux, on essaye de ritualiser en effet. Ça va vraiment être dans l'idée de faire des choix en fait sur par exemple qu'est-ce qu'on mange, comment on le prépare, comment on va le manger, comment on le partage. Alors, dans le cadre des repas, ça me fait penser du coup à ce que je propose pour des moments comme Samhain,
Ouais.
justement, qui est cet entre-deux entre les mondes subtils et notre monde à nous. C'est de déposer une assiette supplémentaire pour ses ancêtres, pour les honorer, les célébrer. Et donc là, on est vraiment dans la matière, pour le coup, dans l'idée de je partage mon repas avec mon mari, mais je partage aussi mon repas avec mes ancêtres. Et je leur donne vraiment une assiette, je
Ouais.
leur donne vraiment une place à table. Ça serait un exemple, par
Ok. Et alors toi, justement, ça a été quoi ton premier contact avec la sorcellerie et peut-être tes premières perceptions des mondes subtils? Comment tu t'en souviens?
On me pose très souvent la question et je suis toujours un petit peu gênée parce que moi, ça ne s'est pas du tout révélé. comme quelque chose, c'est comme la lumière qui est arrivée au-dessus de moi en mode, oh, mais oui, la sorcellerie, c'est une évidence. J'ai pas du tout eu cette révélation un matin en me disant, oui, c'est ça, et c'est ce vers quoi je vais aller. Ça a été vraiment plein de petites expériences, de rencontres. Ça a été très, très long. J'ai eu des moments, des grands moments de pause, très loin de tout ça aussi. Donc voilà, c'était vraiment en dents de scie et ça n'a pas été une évidence. Mais je pense que, comme pour beaucoup de personnes, si on prend un peu de recul et qu'on regarde son enfance, c'est difficile de démêler l'imaginaire de l'expérience de l'invisible. Hein. Mais je pense que, comme beaucoup, ouais, ça a commencé très, très tôt. Mais pour autant, si la perception a commencé tôt, je n'ai pas pratiqué la sorcellerie depuis l'âge de mes 6 ans, quoi. Hein. C'est venu bien plus tard.
Ouais, tu parlais de rencontres et de formation. Comment ça s'est... Est-ce que c'est toujours des synchronicités qui arrivent dans la vie et on décide de suivre un chemin et rétrospectivement on se dit, bah oui, c'était évident.
Ouais, c'est vrai que, comme je disais, pour moi, ça n'a pas été quelque chose de choisi, entre guillemets, dans le sens où je ne me suis pas réveillée un matin en me disant je veux faire de la sorcellerie, pas du tout. Ça a été vraiment en effet par le jeu de rencontres, jeu du hasard ou pas, de rencontres qui m'ont directement proposé, en fait. Voilà, j'ai rencontré une médium, j'ai rencontré quelqu'un qui voulait me tirer des cartes, qui voulait faire vivre des voyages en état de conscience modifié. Un jour, je suis tombée, je me suis fait mal et l'énergéticienne a voulu m'initier en soins énergétiques. Et du coup, à chaque fois, c'est venu à moi et ça m'a autant fait peur que ça m'a attiré, quoi, ma curiosité. Et j'en suis là aujourd'hui, mais parfois, je ne saurais pas trop expliquer comment j'en suis arrivée là. C'est pas évident, quoi.
Ouais, c'est toujours un jeu de petits cailloux, quoi.
Oui, exactement.
Ouais, ça marche. Et alors, tu parlais tout à l'heure du fait qu'une sorcière, c'est quelqu'un qui est reconnu. Enfin, on se dit pas sorcière soi-même, on est plutôt désigné. Bon, il y a des signes, hein, en tout cas, je parle toujours de l'imaginaire commun parce que c'est ce que je connais. Moi, je n'ai pas vraiment d'expérience de sorcellerie, mais on leur associe des signes physiques pour les reconnaître et même les stigmatiser, hein, beaucoup par le passé. Donc, ça peut être des cheveux roux, des marques de naissance, des grains de beauté. Et justement, dans un épisode précédent, on parlait des chamans. Pour moi, le chaman et la sorcière, c'est la même fonction. De lien justement entre le monde tangible et l'intangible. Et donc en fait, dans cet épisode, on disait que le chaman, il avait un signe, il y avait des circonstances de vie particulières qui le désignaient en fait.
Que ce soit le terme chaman ou le terme sorcière, il faut toujours réussir à le remettre dans le contexte de son époque, de la culture, de la tradition, parce que c'est du coup c'est des mots très généraux qu'on utilise pour représenter une grande diversité de pratiques et de traditions en fait. Du coup, c'est assez compliqué. Typiquement, bah, je ne sais pas moi, la sorcière espagnole ou la sorcière de Suède, peut-être qu'elle va pas du tout avoir les mêmes rites et la même reconnaissance, et le même rôle. Donc c'est très compliqué de dire, alors pour la sorcière, ça se passe comme ça, parce que bah, en fait, ça dépend beaucoup des traditions et des cultures et des époques. Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, justement, il y a un besoin, il y a une nécessité, en fait, de reprendre ces rôles-là et que c'est pas tant la question de qui va prendre ces rôles, c'est il faut prendre ces rôles-là, que ça devient un peu une urgence, en fait, de se reconnecter à cet invisible et de reprendre ces rites et de reprendre nos traditions. Donc, pour moi, je pense que le temps est plus trop à savoir ce genre de presque détails en fait qui viennent plus nourrir l'ego finalement que vraiment là ce qu'on a besoin réellement aujourd'hui quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est une fonction qui a... Finalement, c'est une responsabilité presque, hein, d'être ce lien entre les mondes subtils et les mondes invisibles. Pour toi, comment tu vis, toi, cette fonction, quelle est ta mission, quelle responsabilité tu as choisi d'endosser finalement à travers ça?
Ah bah, je ne sais pas vraiment si La manière dont
Et
tu
si, non, mais alors si je le prononce, si je le formule mal, surtout
Non!
reprends-moi.
Tu te formules super bien, c'est juste que je me dis mince, tes petites crises de panique, de légitimité, est-ce que j'ai vraiment cette responsabilité? Est-ce que vraiment j'ai ce rôle-là? Je ne sais pas hein, si j'ai cette responsabilité, ce rôle-là. En tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est de se reconnecter à cette notion de cycle qui va nous permettre, je pense, de prendre du recul sur beaucoup de choses et d'avoir une vision globale qui va aider tous les pans de la société, en fait. Cette idée que ben il y a autant la mort que la renaissance, accepter la mort, accueillir la renaissance, comprendre en fait le cycle de nos vies, le cycle des saisons, etc., va nous permettre de reprendre contact avec cette idée que qu'il faut prendre soin de notre planète, qu'il faut prendre soin de nous, qu'il faut prendre soin des autres, qu'il faut être à l'écoute, qu'il faut prendre le temps aussi de vivre les choses, qu'on ne peut pas être dans la productivité tout le temps. Voilà, j'ai plutôt ce rôle, je pense, en tout cas j'essaye de l'incarner, de redonner du sens à notre incarnation terrestre par ces cycles, quoi.
Ouais.
Et de pas être en mode je l'ai subi et j'attends que ça se passe, quoi.
Je crois qu'il y a différentes manières de pratiquer la sorcellerie. Enfin, on les désigne souvent par des couleurs. La tienne, ce serait plutôt la magie verte, j'imagine.
Alors du coup, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, là, on retombe dans la magie,
Ouais.
qui est, en fait, je vais essayer de faire ça rapide, mais en gros, la sorcellerie, en effet, comme tu disais, c'est un peu ce contact avec le subtil, l'invisible, ce rôle dans la communauté, là où la magie, ça va être, ça peut se faire sans sorcellerie, en fait. On va uniquement être dans le fait de manipuler des énergies, de transformer la réalité par un acte de magie. Mais en effet, la sorcière va potentiellement utiliser des pratiques magiques, même quasiment à chaque fois. Par contre, quelqu'un qui fait de la magie n'est pas forcément sorcière, pour préciser. Donc, tu peux très bien faire de la magie, par exemple, tu viens de nommer la magie verte, qui est souvent associée à la magie avec les plantes. Je peux très bien utiliser l'énergie des plantes sans jamais communiquer avec. Et donc,
D'accord.
du coup, bah, je fais que de la magie, ce qui est déjà très bien. Hein. C'est pas un jugement, c'est juste pour, j'en profite pour expliquer
Ouais,
ça.
bah super, ouais, bien sûr.
Et du coup, moi, j'ai pas, j'ai, enfin, je vais utiliser plein de sources d'énergie différentes, essentiellement l'énergie des saisons et des lunes, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure.
Ouais.
Je vais aussi utiliser l'énergie des plantes, en effet. Je travaille aussi beaucoup avec les arbres. Voilà, il y a quelque chose de très fort avec les arbres qui se passe chez moi, et les éléments, beaucoup. Donc, ce qu'on appelle la magie des éléments, qui est aussi très centrale dans ma pratique. Et après, je vais avoir des pratiques magiques liées à des traditions plus particulières, comme par exemple, là, je vis en Scandinavie, j'ai des pratiques plus nordiques, j'ai des origines celtes, donc je vais avoir aussi des pratiques celtiques. Voilà, après, j'ai des traditions qui se rajoutent, quoi.
Ouais. Et alors, est-ce que tu suis à la lettre des rituels justement traditionnels ou est-ce que tu inventes un peu les tiens de manière plus intuitive?
Ouais, très intéressant comme question. Oui, je pense que les deux en fait sont complètement légitimes en fait. C'est vrai qu'il y a une petite guéguerre, si je peux dire, entre les traditionnalistes et puis les intuitifs. Moi, je trouve que les deux en fait ensemble, c'est hyper intéressant. C'est ce que j'essaye de trouver dans l'idée où je j'applique jamais à la lettre quelque chose parce que j'essaie toujours de le remettre dans mon contexte, de remettre dans mon environnement, etc.
Ouais.
Par exemple, si on me dit utilise tel ingrédient, ouais, mais bon, moi je vis en Laponie, donc si tu veux la lavande, j'ai peut-être pas un accès facile. Donc j'essaye en fait de remettre de l'intelligence dans l'application de tradition et de principe. Donc je suis entre les deux en fait. J'aime
D'accord.
m'inspirer de grands principes de magie et de tradition sorcière, mais j'aime aussi l'adapter à ce que je ressens et à ce qu'il y a autour de moi, quoi.
D'accord. Et justement, ces grands principes de tradition sorcière, tu les as trouvés où? Enfin, on te les a transmis de personne à personne ou tu les as trouvés dans des livres?
C'est un peu de tout. En effet, j'ai eu des transmissions. J'ai rencontré des personnes incroyables qui m'ont transmis des choses, mais j'ai aussi eu beaucoup de lectures. Là, pour le coup, c'est vraiment du domaine de la croyance, mais je pense aussi que justement, à force d'explorer cet invisible, on en tire aussi des enseignements. Je pense qu'aussi avec l'âge, alors je suis encore jeune, hein, donc j'ai encore beaucoup à apprendre sur mon chemin, mais plus l'expérience avance, plus on acquiert une certaine sagesse et donc des certains savoirs. Donc voilà, c'est un peu de tout, quoi. J'ai pas une seule source, quoi.
Tu parlais de la magie des éléments, ça c'est quelque chose que je ne connais pas du tout.
La magie des éléments, ça va être. Alors, ça va dépendre aussi, encore une fois, des traditions, des cultures, etc. Dans ce que moi j'utilise, on travaille avec les quatre éléments, air, terre, eau, feu, et on va les explorer ensemble. Donc, on peut aussi retrouver, par exemple, la magie de l'eau, la magie de la terre, la magie du feu, la magie de l'air, où on va explorer qu'un seul élément. La magie des éléments, c'est bien les quatre éléments ensemble. Même si bah, forcément on va potentiellement les explorer un par un parfois. Mais le but, c'est d'essayer de trouver justement cette harmonie, cet équilibre, cette puissance des quatre ensemble. Regardez, c'est quoi le point en fait central qui va donner toute la puissance aux quatre éléments ensemble. Et il y a vraiment l'idée d'alchimie hein, dans le
Ah, mais c'est
travail
ce que j'allais
avec
dire, ouais.
les éléments, voilà, c'est ça. Notamment avec le cinquième élément, très souvent qui est nommé comme l'éther. Et donc voilà, c'est vraiment cette exploration où par exemple, en fait, le système de la magie, pour résumer, il est tout le temps le même pour moi. Que ce
Ouais.
soit les plantes, les arbres, les pierres ou les éléments, c'est que tu vas aller à minima te connecter à ces énergies et ensemble voir qu'est-ce qu'on peut faire. Pour moi, c'est le principe de base, que ce soit avec une plante ou un élément, quoi.
D'accord. Et en fait, c'est tu rentres en communication avec, tu te places, j'imagine, en état de méditation pour essayer de recevoir finalement ce que l'énergie peut te transmettre. Enfin, je sais pas, je.
Alors, en fait, pour moi, il y a plein de manières, mais non, mais c'est une possibilité.
Ouais.
Mais c'est celle qui est la plus communiquée aujourd'hui, hein, cette idée de rentrer dans un état de conscience modifié pour entrer en contact, etc. On a beaucoup de règles, beaucoup de protocoles pour rentrer en communication, etc. Donc ça, en effet, c'est une façon de faire et ça fonctionne. Mais ce n'est pas la seule. Et les anciens, justement, ils se posaient peut-être un peu moins de questions aussi.
Ouais.
Et je pense que pour communiquer au mieux avec les éléments, bah, c'est d'être en contact avec eux, quoi.
D'accord.
Donc le fait d'être en nature, quoi de mieux que d'être au milieu d'un lac ou les pieds dans la rivière pour communiquer avec l'eau.
Ouais.
Donc tu peux te mettre dans ton salon en état de conscience modifié pour communiquer avec l'eau, mais si tu as l'occasion, non mais parce que c'est ça aujourd'hui, il n'y a pas de souci, je le fais aussi, mais si tu as l'occasion d'avoir les deux pieds dans l'eau, c'est quand même plus sympa, je
Ouais.
pense.
Et alors, est-ce que tu poses, est-ce que tu, comment tu rentres en communication? Est-ce que tu poses une intention à chaque fois pour chaque contact ou est-ce que tu laisses venir ce qui vient?
Alors, je peux en effet avoir un besoin, une nécessité, ou du coup, bah, c'est moi qui vais proposer quelque chose
Ouais.
avec une intention, par exemple. Mais je reste aussi très ouverte à ce qui pourrait, à ce que je peux accueillir sans avoir un besoin spécifique, une intention de départ.
Et alors justement, là, on est... Alors là, c'est la pleine lune, enfin, aujourd'hui, hier. Comment tu pratiques, toi, est-ce que tu as un rituel particulier pour chaque pleine lune? Comment ça se passe pour toi?
Ah oui, alors du coup, moi j'ai développé un concept que j'appelle la magie saisonnière
Ouais.
et où en fait je vais étudier différents aspects des énergies où à partir de là je vais définir le rituel. Donc j'ai pas un rituel de pleine lune que je vais faire à chaque pleine lune, il va être
Ouais.
différent chaque mois de l'année parce que ben, en fonction de la lunaison, de la saison, mais aussi des astres, de ce qui se passe dans mon environnement, dans la société, enfin plein de choses que je vais mettre en corrélation et ça va me faire naître un rituel. Et par exemple, là, c'était la pleine lune en Lion et le rituel que j'ai réalisé était pour révéler le potentiel créateur et répandre la joie. Voilà, et en sachant que moi, j'ai beaucoup de pratiques communautaires, beaucoup de pratiques de groupe. Donc, bah, les rituels, ils se définissent aussi en fonction de la communauté et des échanges que j'ai avec, quoi.
D'accord. Et donc c'est une communauté que tu as créée en ligne, c'est ça?
Oui, voilà, alors en ligne, parce que ben, c'est aujourd'hui compliqué de créer des communautés en physique, mais même
Ouais.
si j'aimerais beaucoup. Mais en effet, ouais, c'est une communauté en ligne et ben, on pratique tous les mois ensemble pour chaque saison. chaque lunaison. Et voilà, c'est juste magique, même à distance, c'est magique.
Ah ouais, c'est génial. Et donc à chaque fois, toi, ça te demande, j'imagine, énormément de travail de concevoir ces rituels, d'étudier tout ce qui se passe au niveau astrologique, au niveau des énergies, etc., pour finalement, ouais.
Ben, j'y ai dédié ma vie. Enfin, pour moi, c'est. On me demande des fois si j'ai des dévotions à des divinités. Mais j'ai surtout une dévotion à ça, quoi. C'est ma dévotion. C'est. J'ai dédié ma vie à honorer les cycles.
Ouais. Et alors, comment justement les rituels nous aident à passer d'un état à l'autre?
Ben déjà, je pense que juste le fait de prendre le temps de se poser sur un sujet. C'est pas quelque chose qu'on s'offre beaucoup dans notre société moderne et en tout cas dans nos vies d'occidentaux. Et je pense que rien que ça, déjà, ça apporte beaucoup d'identifier qu'il y a un thème sur lequel ben, j'ai envie de passer du temps et de passer du temps sur ce thème. C'est déjà énorme en fait, la plupart
Ouais.
du temps. Et après, en fait, oui, ça va aider à explorer différemment justement ce qu'on est en train de traverser. C'est de lui donner de l'importance, c'est de lui donner du temps, lui donner de la conscience, lui donner de l'amour du coup, parce que ben, c'est aimer que de justement prendre ce temps-là. Et oui, ça peut aider sur plein de pans de sa vie. Et pour moi, justement, ces rites vont permettre de cette idée justement de prendre le temps d'accueillir chaque passage de sa vie, en fait. Les petits comme les grands pas, je veux dire, il ne s'agit pas juste de la naissance, de l'adolescence, de la retraite, de la mort, du mariage. Je parle vraiment de toute étape de vie. Là, typiquement, on passe de l'hiver au printemps. Pour moi, c'est une étape importante. Et prendre le temps de la comprendre et de l'explorer, ça apporte déjà beaucoup, je pense.
Ouais. Bah alors justement, j'aurais bien aimé qu'on parle de ce moment. C'est Ostara, je crois, dans le calendrier celtique. Qu'est-ce que tu peux nous raconter justement sur ce passage important?
Alors en fait oui, alors du coup juste pour dire Ostara, c'est un terme qui a été beaucoup repris dans le
Ouais.
cadre de la roue de l'année néo-païenne, notamment popularisée par la Wicca. Elle a plein d'autres, cette célébration a plein d'autres noms en fonction des traditions et des cultures et des époques aussi, mais en gros c'est l'équinoxe de printemps qu'on
Ouais.
peut appeler en effet Ostara. Et
Et
du coup, bah,
toi tu l'appelles comment du coup dans ta tradition plutôt nordique?
Ah, bah, en fait, moi j'ai tendance à l'appeler équinoxe de printemps.
D'accord. Ça parle à tout le monde comme ça.
Comme ça, je suis tranquille, c'est clair pour moi, c'est clair pour les autres. Voilà, j'ai plutôt tendance à les appeler par leur nom.
Par leur nom, ok.
Mais voilà, c'est aussi. Mais je les appelle aussi beaucoup. J'appelle aussi beaucoup Ostara parce qu'aujourd'hui, c'est très connu comme terme. Donc, ça parle aussi beaucoup en général. Mais quoi qu'il arrive, c'est la même période. Hein, c'est la période. Où en effet on bascule dans la saison lumineuse et où c'est un temps que je trouve hyper intéressant. C'est comme l'automne en fait, l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne, c'est exactement la même chose dans l'idée que le jour et la nuit sont d'égale durée ce jour-là. Donc on est dans un parfait équilibre et je trouve ça assez fascinant avant qu'on bascule dans le cadre de l'équinoxe de printemps vers la lumière.
Ouais.
Par exemple, entre l'automne et l'hiver, il y a un changement de saison, mais on reste dans la saison obscure, dans la saison sombre. Là, on passe de la sombre à la lumineuse. Donc, c'est pour ça que pour moi, les équinoxes sont très intéressants. Et du coup, pour moi, c'est vraiment d'accepter, en fait, de lâcher tout ce travail de l'ombre, de l'introspection, tout ce travail de l'intérieur, de se libérer de ça pour accueillir le renouveau, accueillir la renaissance. Dans la nature, c'est le moment où on va créer, en fait.
Ouais.
Toute la nature va renaître, toute la vie sur Terre va reprendre. Et donc, d'où le potentiel créateur que j'ai exploré à cette pleine lune, hein, parce que pour moi, elle nous prépare à ça. Il y a tout un potentiel créateur de vie qui est là, quoi, qui a été en gestation pendant des mois. Et donc, on a la possibilité de créer à ce moment-là. Donc, c'est ça le printemps, c'est la renaissance, la naissance et tout le potentiel créateur de la nature et en nous. Et donc, bah, ça laisse plein de possibles. Donc, c'est autant fascinant que effrayant parce que bah, tout est possible au printemps.
Ouais, oui. Et alors ton rituel de printemps, il ressemble à quoi?
Alors, c'est comme pour les lunes, ils changent à peu près tous les ans.
D'accord.
Mais parce que du coup, voilà, ça va dépendre. En fait, par exemple, là, on est l'équinoxe de printemps va se passer 2 jours après, en cette année 2022, 2 jours après une pleine lune en vierge.
D'accord.
Bah, du coup, ce n'est pas les mêmes énergies si c'était passé juste après une pleine lune en lion, par exemple. Et ça change tous les ans, hein, les pleines lunes. Donc, du coup, bah, voilà, ça, je vais le prendre en compte. Mais en gros, de manière globale, l'idée, c'est pour moi de planter la graine du renouveau, de planter la graine pour que, bah, fertiliser justement ces projets. Il y a une énergie de fertilité pendant cette période. Et donc, très souvent, bah, dans la matière, concrètement, c'est de choisir une graine que je vais planter, qui va symboliser ce que je veux faire naître. Et donc, bah, je vais m'occuper de cette graine pour que vraiment elle donne naissance à quelque chose dans la matière, hein. Toujours ce rapport subtil et matière. Et pour donner un exemple, cette année, avec ma communauté, on va créer des bombes de graines pour répandre justement la joie à travers les graines qu'on va, ces bombes de graines qu'on va lancer un peu partout dans le paysage, quoi.
Ah, génial.
Voilà.
Ok, super. Et justement, tu me disais tout à l'heure qu'on pouvait pratiquer la magie sans forcément être une sorcière. Donc ça, c'est bien parce que ça décomplexe finalement, hein, quand on peut être amené à vouloir se rapprocher de la nature, pratiquer des rituels, faire des choses qui ont du sens pour nous, mais qu'on n'est pas forcément... On se considère pas forcément comme une sorcière. Et comment on pourrait intégrer en fait ces pratiques magiques dans notre vie moderne?
Ouais, très bonne question. Bah, il n'y a pas une réponse parce qu'en effet, on a tous des contextes de vie différents. Je pense que la première question à se poser, c'est pourquoi je fais ça? Et quel est mon besoin? Quelle est la nécessité? Mon besoin ou le besoin? Parce qu'on ne répond pas forcément qu'à un besoin individuel et personnel, ça peut être un besoin communautaire, hein. Et du coup, dans l'idée de se poser cette question-là, ça va permettre que le comment va découler assez naturellement. C'est-à-dire, moi, ce que je conseillerais pour intégrer ces pratiques dans son quotidien, c'est pas de partir du comment en disant, OK, on m'a dit qu'il fallait un chaudron, j'ai un chaudron, maintenant, comment j'utilise ce chaudron? Et pour moi, c'est prendre le problème à l'envers, en fait. C'est de quoi j'ai besoin, et après, je verrai les outils qui correspondent et qui répondent à ce besoin. Et je pense que le mieux à faire, c'est pour que ça prenne place dans sa vie, c'est de regarder ce que l'on fait déjà. Et de voir comment on peut l'adapter à une pratique magique. Par exemple, quand tu parlais de magie du foyer, c'est ça, magie dans la cuisine, magie dans le ménage, magie dans le sommeil, magie dans la sexualité, dans le soin à la personne, dans tous ces moments de vie qu'on a déjà, en fait, comment j'intègre la magie, plutôt que de chercher des pratiques qui sont bien loin de soi parfois.
Ouais. Ok.
Je sais pas si j'ai bien répondu à
Si,
ta question.
si. Mais alors du coup,
Ah bon?
je saisis au vol parce que tu parles du chaudron.
Ouais.
Comment tu l'utilises, toi, ton chaudron, par exemple?
Alors, ouais, moi, mon chaudron, alors, j'ai choisi un chaudron en cuivre, ce qui est assez particulier parce que c'est conducteur de chaleur, le cuivre. Donc, tout peut vraiment être réfléchi, hein, même la matière, etc. En gros, pour moi, le chaudron, c'est un symbole très fort du ventre de la déesse. Du ventre de la terre, où va se passer la gestation et la transformation. Donc c'est là où va passer autant la vie que la mort, que la renaissance. Et donc, bah, pour moi, c'est clairement un exemple concret de l'aspect cyclique des choses. Donc c'est un outil qui est très central dans ma pratique, un symbole qui est central dans ma pratique. Et donc je vais l'utiliser en y déposant les choses que je veux mettre en gestation, que je veux transformer. J'ai aussi, par exemple, un chaudron spécifique où j'y dépose toutes mes offrandes au fil de la saison, que je transforme ensuite dans un rituel où je vais brûler ces offrandes dans mon chaudron, vraiment pour cette idée de marquer et la gestation et la transformation.
D'accord. Et c'est tu utilises un grand chaudron ou un petit chaudron?
Bon, alors j'ai un peu la folie des chaudrons. Chacun sa fixette d'outils. Moi, c'est les chaudrons, j'en ai beaucoup. J'ai de toutes les tailles. Ça va dépendre si je pratique seule, si je pratique en groupe. Parce que même si je fais des pratiques en ligne, je fais aussi des pratiques physiques, hein. J'accueille des groupes, etc.
Ouais.
Donc, du coup, voilà, ça dépend avec qui je suis, etc. Mais j'ai un peu toutes les dimensions.
Ok. Bon, alors je continue sur les outils un peu de la sorcière, parce que je trouve ça génial. Je crois que tu as un chat.
Oui.
Est-ce que c'est ton familier?
Ah, c'est très difficile aussi de répondre à cette question. Il y a des fois, je me dis, ben bah oui, c'est évident. Je veux dire, elle est présente à tous mes rituels. Elle me suit quand je vais faire ce type d'action, etc. Je sais pas. J'ai le sentiment que oui. Et des
Ouais.
fois, je me dis, bah non, pas du tout. Tu te fais des films. Ça te fait plaisir de te dire ça. Donc, comme tout le monde, je doute beaucoup hein, de tout ça. Vu que je ne peux pas avoir une communication directe avec elle, je ne sais pas. Mais je
Ok.
pense parfois.
Ouais. Oui, t'as jamais essayé d'entrer en communication justement avec elle pour.
Alors, moi directement, non. Alors, autant la communication animale, ce n'est pas du tout quelque chose d'évident pour moi. Enfin, vraiment
Ouais.
pas.
Bah attends,
Autant
tu
les
communiques
arbres.
avec des arbres.
Voilà, c'est ça. Autant c'est beaucoup plus facile pour moi et beaucoup plus évident et pas du tout
Ouais.
avec les animaux. Mais j'ai fait appel à quelqu'un du coup pour m'aider à communiquer avec mon chat.
D'accord.
Voilà, c'était très intéressant.
Ouais. Et alors, est-ce que tu pratiques aussi des sorts? Est-ce que tu fais des potions? On parlait des plantes tout à l'heure. Comment tu vas utiliser les plantes, par exemple?
Alors, les plantes, je peux vraiment les utiliser uniquement dans l'idée de leur présence, leur énergie, sans forcément les transformer en quoi que ce soit.
Ouais.
C'est ce qui est intéressant. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien, comme je disais, être dans la matière. Donc, je vais quand même souvent les utiliser matériellement. Et là, ça peut être de plein de façons possibles. Ça peut être en infusion, ça peut être en sac à sortilège, moi, ce que j'appelle des pochons, ça peut être en fiole. Ça peut être en encens, il y a tellement de possibilités. Ça peut être en poupée, ça peut être en bâton de fumigation.
Ouais. Et un
C'est
sac
simple.
à sortilège, c'est quoi?
Un sac à sortilège, donc moi j'appelle ça des petits pochons.
Ouais.
C'est un sac dans lequel tu vas mettre des éléments qui vont faire le sort, faire le sortilège. Donc tu peux faire des sacs à sortilège pour toutes les thématiques possibles, imaginables. C'est presque une pratique magique à part entière, hein, le sac à sortilège.
Ouais.
Comme les poupées, hein, comme la magie des poupées, il y a plein de pratiques comme ça, très spécifiques avec un outil. Et donc, voilà, moi j'ai des pochons pour le réconfort, des pochons pour les rêves, tout est possible.
D'accord, génial. Bon, et quand tu me parles de magie des poupées, moi je pense au vaudou, mais j'imagine que c'est pas ça.
Alors, bah, c'est-à-dire que c'est une pratique, en effet, mais ce n'est pas la seule, bien entendu. Et il y a plein de possibilités. Moi, par exemple, j'ai une poupée gardienne j'adore aussi la magie des poupées. J'ai une poupée gardienne de mon potager, de mon jardin. Donc, tu peux aussi faire des poupées gardiennes, des poupées gardiens, des poupées protectrices. C'est pas forcément. Et puis, cela dit, la poupée vaudou, moi, je ne suis pas du tout une spécialiste, donc je ne peux pas en parler. Mais c'est entre ce que le grand public en comprend et ce que c'est, il y a une grosse différence aussi. Hein.
Ouais. Alors toi, tu définis comme une sorcière des haies.
Oui.
Alors qu'est-ce que c'est et comment ça s'est présenté?
Ah, bah, en fait, c'est parce que très souvent, on me demande. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu pratiques? Et je comprends parce que ben c'est vrai que quand tu fais appel à moi, si tu sais pas trop ce que je fais, je comprends que tu puisses poser question et que ça soit important que je puisse me définir. J'ai pris ce qui pour moi me semblait le plus correspondre à ce que je faisais. Mais du coup, j'ai d'abord pratiqué en fait et après je me suis mis ce nom-là. Donc
D'accord.
c'est pas, je me suis pas dit je veux être Edge Witchcraft, Edge Witch, sorcière des haies, à aucun moment quoi.
D'accord.
Et en fait, c'est parce que j'ai une pratique communautaire, mais j'ai aussi une pratique solitaire. Et j'ai lu des livres anglo-saxons, anglophones, sur des pratiques solitaires avec le terme Edge Witch, Edge Witchcraft, donc en français sorcière des haies. Et j'ai trouvé que ça correspondait le mieux à ce que je faisais, dans l'idée que c'est une pratique où déjà on se positionne entre les mondes. Donc ça, comment dire, ça insiste bien sur cette communication avec l'invisible
Ouais.
qui est vraiment très présente dans la pratique. Et ça insiste aussi sur le fait de faire avec ce qu'on a. Donc moi, je suis vraiment dans ma pratique, je suis très débrouillarde et je bidouille avec un peu tout ce que j'ai autour de moi et de manière très intuitive et instinctive. dans l'idée aussi bah, d'être dans le respect de mon environnement, de ce qu'il y a autour de moi, de la connaissance de mon territoire aussi. Et je trouve que la Edge Witchcraft est très liée à ça, quoi, cette idée de OK, comment fonctionne mon territoire, comment je peux l'explorer avec ce que j'ai, sans forcément chercher, justement, comme on disait, des ingrédients de l'autre bout du monde, quoi.
Ok. Oui, c'est plus, ça paraît plus intuitif et naturel finalement de. Enfin, j'imagine qu'à l'époque, elle faisait comme ça aussi les sorcières.
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas il n'y avait pas Internet.
Ouais.
Donc on ne pouvait pas commander des trucs qui venaient de je ne sais pas d'où, même si c'est hyper intéressant hein, de s'intéresser aussi à d'autres ingrédients et d'autres cultures. C'est vrai que j'aime l'idée de connecter à ce que j'ai autour de moi
Ouais.
en priorité, quoi.
Et alors, du coup, toi, autour de toi, quels sont les ingrédients que tu utilises le plus finalement dans la région où tu vis,
Ouais.
avec les températures parfois un peu extrêmes que tu expérimentes?
Un peu beaucoup même, ouais. Bah, je suis toujours en apprentissage, hein, très clairement. J'ai encore beaucoup à apprendre. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de pain, de sapin. Hein, c'est ce que j'ai le plus. Des bouleaux. Donc, je travaille beaucoup avec les arbres pour ça. En gros, j'ai beaucoup d'arbres et beaucoup d'arbustes. Beaucoup de tout ce qui va être des baies. Hein, donc, les myrtilles, ce type de fruits. Et puis, beaucoup de lichens, beaucoup de mousse aussi. On est sur des marécages hein, au nord de la Suède. Les gens ne se rendent pas forcément compte, mais on vit sur des marécages. Hein. Donc, c'est une faune très, très particulière et une flore aussi très particulière. Donc, je continue encore d'apprendre et d'explorer. Mais par exemple, on a du saule, lapon. On a des fleurs et des arbres qui sont spécifiques à ici. Donc, voilà, je dois tout réapprendre. Mais c'est passionnant.
Bah ouais. Mais alors du coup, j'imagine que le choix de ton lieu de vie influence quand même énormément, enfin détermine même sûrement ta pratique au quotidien, parce que tu
Complètement.
vives en Laponie ou en Provence, les énergies sont pas les mêmes.
Complètement. C'est-à-dire que tu vas avoir, pour moi, des énergies qui sont communes à toutes et tous liées, en tout cas dans l'hémisphère nord, par exemple, hein, toutes les personnes qui vivent à l'hémisphère nord avec les saisons, les lunaisons. Les saisons sont inversées à l'hémisphère sud, c'est en ça que ça va être différent. Mais voilà, pour moi, que tu sois en Provence ou en Laponie, l'équinoxe d'automne, c'est l'équinoxe d'automne.
Ouais.
Il n'y a pas de questions à se poser, les énergies sont là. La pleine lune, c'est la pleine lune. Que tu sois en Laponie ou en Provence, c'est pareil. Par contre, comment tu vas explorer ces énergies de manière matérielle dans ta pratique, là, ça va être très différent. Et du coup, oui, la connaissance de ton environnement va être indispensable pour moi.
Et toi, tu vivais où avant de vivre en Suède?
Alors, c'est mon 15e déménagement là.
D'accord.
Du coup, j'ai un petit peu bougé et j'ai beaucoup vécu. J'ai fait la Bourgogne, j'ai fait la Haute-Savoie, j'ai fait le Pays Basque. J'ai pas mal
D'accord.
bougé.
Et comment tu définirais du coup les énergies qui t'entourent en Suède? Enfin, si c'est possible de répondre à cette question.
Ouais. Ben en fait, ici c'est très particulier parce qu'on est sur des terres qui sont très peu habitées. Où il y a une, où c'est vraiment la nature qui a tous ses droits, donc c'est toi qui dois t'adapter à la nature. Donc c'est un mode de vie qui est quand même très particulier, qui fait que les énergies ici s'imposent en fait vraiment à toi. Et on se sent vraiment très 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 petit face à tout ça. Et j'aime pas bien utiliser ce terme, mais comment dire, il y a quelque chose de brut, voilà. On va dire ça. Je vais prendre ce terme-là. Il y a quelque chose de très brut ici. Ouais. Très brut, qui du coup va permettre des choses incroyables, mais qui peut parfois du coup être très difficile. Et on vit tout le temps dans des extrêmes. Et ça, c'est pas toujours évident. Ouais.
Ok. Et est-ce que tu travailles ou tu es en contact avec les êtres de la nature?
Alors, pareil, ça c'est tout un système de croyances. Est-ce que je l'ai en moi? Moi, je crois aux puissances de la nature.
Ouais.
Et je ne sais pas si je suis directement en contact avec, mais en tout cas, je me présente à ces puissances, ça c'est sûr. Je me présente à elles et je les honore et je les célèbre et j'essaye de les nourrir comme elles me nourrissent en retour. Après, est-ce que ça prend la forme d'êtres type, je sais pas, moi, des fées, des
Des
gnomes, des
fées, ouais.
lutins, ce qu'on appelle le peuple silencieux, par exemple? J'en sais rien, très sincèrement, je ne sais pas du tout, j'ai aucune certitude là-dessus. En tout cas, je crois en plus en la nature et je crois parfois, oui, qu'on communique. Parce que j'ai vécu des expériences, j'en ai vécu deux, trois qui sont, enfin, qui sont jamais aggravées en moi, quoi. J'ai du mal à croire que ça s'est passé, mais une très rapide où en fait je demandais à un arbre dans mon jardin un boulot. Si je pouvais avoir une branche pour, si je pouvais lui prendre une branche en fait
Ouais.
pour faire des runes. Et donc je me suis dit bon, tu fais ta demande puis tu verras si tu ressens quelque chose, si t'as un signe ou quoi. Le lendemain, je sors de chez moi et j'ai, c'était un boulot qui était immense, hein, qui est énorme, qui a plusieurs siècles je pense, une branche de 2 mètres qui
Wow.
tombe. En sortant de chez moi, j'ai fait ah d'accord, bon bah du coup je pensais oui, alors est-ce que c'est un hasard peut-être, hein, je ne sais pas. Et la deuxième expérience qui était folle, c'est que je me baladais en forêt et je vois en fait des arbres qui étaient tordus en fait, comme si ça indiquait un chemin, et je me suis dit vas-y, suis. Donc, je suis sortie du chemin de la forêt pour aller dans la forêt, et je peux vous dire que les forêts ici, vaut mieux suivre le chemin en général
Oui.
parce que tu peux vite te perdre. On s'est déjà perdu pas mal de fois. Enfin bref. Et donc j'ai suivi, j'ai dit, ah tiens, là, il y a un tronc mort, etc. Et je me suis retrouvée devant un bouleau à 7 troncs.
Wow.
J'en ai fait une vidéo sur YouTube tellement que c'était pas possible, quoi. Tellement que c'était impossible que ça m'arrive, quoi. Et ce truc est incroyable à voir, quoi. Enfin,
J'imagine.
c'est un point de passage de ouf. Et donc voilà, encore une fois, peut-être une coïncidence, mais.
Moi, je crois pas aux coïncidences, mais c'est pas dans mes croyances. Et ce boulot à 7 troncs, justement, est-ce que t'as communiqué avec lui? Qu'est-ce qu'il avait à te dire ce jour-là?
Bah, alors du coup, je l'ai quitté depuis parce que c'était dans mon ancien lieu de vie, toujours en Laponie, mais j'ai déménagé il y a peu
Ouais.
de temps. Donc ça a été très dur. Du coup, j'y allais toutes les semaines, hein, lui rendre
Ah.
visite. Mais du coup, comme il avait 7 troncs, il avait un. Et à l'intérieur, il y avait comme comme un petit chaudron, quoi. C'était assez fou, quoi. Où j'y pouvais y déposer mes offrandes, etc. Et moi, j'ai eu le sentiment que c'était un point de passage. Que c'était comme une porte, que c'était un point de passage.
D'accord.
Les mondes.
Ah, génial. Comment on peut faire appel à toi justement pour quel genre de...
Bah, alors, je suis un peu sur tous les réseaux sociaux. Je suis sur Twitch, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. J'essaye d'être un peu partout parce que ben, c'est vraiment le point central pour moi, c'est de communiquer, d'échanger autour de ces pratiques.
Ouais.
Et après, bah, du coup, je propose plein de choses. J'ai plein de choses qui sont accessibles gratuitement, hein, sur les réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, je fais plein de vidéos. Je fais des lives toutes les semaines sur Twitch aussi. Et j'ai un webzine, un blog où il y a plus de 200 articles. Donc voilà, déjà, si vous avez envie de découvrir un peu mon univers, il y a plein de choses qui sont accessibles. Et après, bah, je fais plein de choses aussi. Dans le cadre des retraites que j'organise. Donc, j'organise des retraites spirituelles, magiques, sorcières en ligne, en France, en Suède, chez moi. Il y a une plateforme communautaire, du coup, où tu payes un petit abonnement tous les mois et tu as accès à tous les rituels de lune, de saison. On a un serveur de discussion, on se retrouve en live tous les mois. Enfin, voilà, c'est
Ouais, génial.
assez cool. Et puis après, j'ai plein de cours et de programmes en ligne qu'on peut suivre de manière solitaire, individuelle. Il y a un petit peu pour tout le monde, en fait. Le but, c'est vraiment que chacun s'y
Ouais.
retrouve. Et dans l'idée que bah, c'est vraiment pas dogmatique, hein. Ce que je propose, c'est plutôt des méthodes, des outils, ce genre de choses, quoi.
Ouais. Ok. Et justement, d'ailleurs, tu parlais des runes tout à l'heure. Je crois que tu as une formation en ce moment sur ta plateforme sur les runes.
Oui.
Est-ce que tu peux m'en dire 2 mots justement sur des runes, parce que j'ai une amie qui est très connectée aux runes et j'ai pas vraiment compris en fait comment on pouvait les... Enfin, qu'est-ce que c'était en fait finalement? Je sais que c'est les lettres de l'alphabet, mais comment
Oui.
les intégrer dans une pratique magique, quoi ça fait référence
Ouais. Bah, c'est un grand sujet, les runes, parce que donc tu l'as très bien dit, c'est un alphabet au départ. Et c'est
Oui.
uniquement ça, au niveau historique et au niveau anthropologique, aucun historien n'est d'accord sur le fait que les runes ont été utilisées pour autre chose que pour un alphabet, donc pour de l'écriture, voilà.
Ouais.
Donc un système d'écriture. Mais il y a beaucoup de. de textes, d'utilisation et du coup de croyances qui sont nées sur le fait que c'était aussi utilisé et en divination et en magie. Donc, c'est-à-dire que derrière chaque symbole runique, tu vas retrouver une définition, des archétypes, des symboles, comme derrière chaque carte du tarot, par exemple.
Ouais, d'accord.
Et à partir de ça, tu vas pouvoir les utiliser pour répondre à des questions, donc en
Ouais.
divination. Mais on considère aussi que chaque rune est à sa propre énergie. Et donc, on va pouvoir aussi les utiliser en magie. On peut les combiner aussi. Enfin, il y a plein de possibilités. C'est tout un univers complexe, mais avec énormément de potentiel, quoi. Enfin, c'est.
Ouais.
Et
OK.
en termes d'archétype, ce qui est intéressant, c'est pour finir, parce que je sais que ce n'est pas le sujet principal, mais il ne faut pas
Non, mais
mentir
c'est
sur
hyper intéressant.
les runes. C'est que contrairement au tarot, par exemple, qui est un système qui date de la Renaissance, donc qui est assez récent finalement, les runes vont vraiment faire appel à des archétypes très instinctifs, quoi, de la nature et quelque chose qu'on a perdu, je trouve, beaucoup aujourd'hui. Et donc, ça permet aussi de se reconnecter à des choses plus facilement qu'avec d'autres outils, quoi.
Ouais, d'accord. Ouais, parce que c'est vrai que bon, quand on fait de la divination, ce qu'on cherche, c'est des réponses, des messages. Et forcément, là, ça me semble logique d'utiliser un alphabet, du coup.
Par exemple, oui.
Je sais pas si tu avais autre chose à nous partager, une envie particulière, transmission d'un message.
Bah, juste déjà de te dire merci parce que c'est pas un exercice que je fais souvent. J'aime pas
Ouais.
bien faire ce genre d'exercice. Je suis vraiment pas à l'aise en général. Et merci de m'avoir accordé ce temps de parole. C'était hyper cool d'explorer ça avec toi. Et ce que j'aurais à dire, c'est que tout ça est qu'un système de croyances et c'est pas là pour nous soumettre ou nous faire peur ou nous mettre mal à l'aise ou nous rentrer dans des cases. Donc, c'est bien de lire et d'écouter ce que les autres disent, mais je pense qu'avant tout, ce qui est important, c'est de l'explorer soi-même, de l'expérimenter, de le vivre en se libérant un maximum des on-dit et voilà, des
Ouais.
règles et autres, quoi.
Ouais. Bah, je pense qu'il y a plein de contenu à explorer sur ton webzine, justement, sur tes chaînes YouTube pour se connecter un petit peu à cette part de magie qui peut nous manquer dans notre vie quotidienne. Et en cela, c'est moi qui te remercie déjà de m'avoir accordé ton temps et surtout pour tout ce que tu offres au monde sur tes réseaux sociaux. Et c'est vraiment très, très précieux.
Ben, merci beaucoup, je suis très touchée. Un grand merci.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le, laissez un commentaire et abonnez-vous pour ne pas rater le prochain.